Gilbert Cancondé, bonjour.
Bonjour, monsieur Beaubouvier.
Dans le territoire de Béni, les attaques meurtrières des rebelles ADF Nalou se multiplient et visiblement c'est en représailles à l'annonce d'opérations militaires de l'armée congolaise contre leur base. Est-ce à dire que l'État congolais n'est pas capable de sécuriser ce territoire ?
Eh bien, ce que je dois vous dire, c'est que l'État congolais a pris des dispositions pour lancer une vaste opération offensive afin de nettoyer le territoire de Béni, justement de tous les ADF. Et cette offensive a été lancée il y a un peu plus d'une semaine contre ces forces qui utilisent parfois des tactiques qui sont très proches de la guérilla. Vous savez qu'ils se sont mêlés parfois à des populations et qu'ils ont des accès parfois à des villages qui sont éloignés du centre-ville de Béni. Maintenant qu'il y a une large opération d'offensive, de temps en temps, ces gens qui sont mêlés à nos populations, ils profitent de petites incursions dans certains villages qui sont éloignés de là où il y a la présence militaire pour frapper de petits coups qui font parler d'eux. C'est comme ça que nous en parlons en ce moment-ci. Mais soyez certains que dans un avenir très proche, ça ne sera qu'un mauvais souvenir.
Mais monsieur le vice-premier ministre, il y a aussi des attaques dans des endroits où il y a une présence militaire. Et ce qui exaspère les habitants du territoire de Béni, c'est que quand ils appellent les forces de sécurité pour signaler la présence de suspects dans leur quartier, ces forces n'interviennent pas.
J'ai l'impression que vous avez des anciennes informations. Il y a plus ou moins 3 semaines, nous étions à Béni justement. Ce qui avait frappé, c'est que le président de la République avait fait ses déplacements. Un deuxième déplacement dans la ville de Béni. Eh bien, la vie avait repris, la population était le long de la route, elle s'était mobilisée de manière spontanée et au meeting qu'il avait animé, c'était une ambiance de vie tout à fait normale. Et en reconnaissance, on entendait des messages que la population lançait, c'est qu'il se faisait déjà un peu plus de 2 mois que la ville était sécurisée et que même les incursions nocturnes n'étaient plus de mise. Donc cette fois-ci, c'est en réaction avec la vaste opération offensive qui est lancée par les forces armées que des poches essayent de frapper de petits coups juste pour se faire parler d'eux. Mais très très bientôt, vous n'entendrez plus parler de cela.
Vous dites que ça va mieux depuis 3 semaines, mais ce mardi, au moins 7 personnes ont été tuées dans la ville même de Béni, ce qui est une première depuis octobre 2018, depuis plus d'un an.
Précision, je n'ai pas dit que ça va mieux depuis 3 semaines. J'ai dit qu'il y a donc les déplacements du président de la République d'il y a un peu plus de 3 semaines étaient pour annoncer que la vie allait redevenir normale à Béni et que l'armée lançait une vaste opération offensive. Mais au moment où nous étions il y a 3 semaines, la population avait déjà vécu plus de 2 mois sans aucun incident. Et maintenant que l'opération militaire a été lancée, c'est en représailles que de petits groupes essayent de créer une ambiance de terreur. Et lorsque les noyaux ou ces terres, ces ADF, aura été détruit, eh bien, les opérations de nettoyage se feront. Et les patrouilles mixtes qui se faisaient déjà, police militaire, ils ont déjà la responsabilité de pouvoir nettoyer les centres urbains de la présence de ces criminels, eh bien, ils les feront.
Au début de cette année, le groupe État islamique a revendiqué plusieurs attaques des ADF Nalou. Est-ce que vous avez la preuve d'une connexion entre ces deux mouvements ?
Oui, nous avons reçu cette réclamation du mouvement islamiste. Et par ailleurs, nous avons des mouvements, des populations qui viennent chez nous, à la frontière avec le Sud-Soudan, avec l'Ouganda, avec le Centrafrique. Et tout le monde sait que au Mali et d'autres pays qui sont frappés par ces guerres de djihad, les gens fuient de ce côté-là. Il y en a qui prennent la voie vers le sud. Et nous avons des présomptions sérieuses que parmi les populations Bororo, notamment qui font des incursions à travers nos différentes frontières avec les pays que j'avais cités, peuvent se mêler justement les gens qui ont fui des combats plus au nord. Et les enquêtes sont en cours. Nous attendons les conclusions des différentes enquêtes pour avoir la certitude ou non que des islamistes auraient déjà fait leur entrée chez nous sur notre territoire.
Et des connexions éventuelles entre le groupe État islamique et les ADF Nalou ?
Justement, c'est cela. Nous savons aussi, effectivement, parmi les ADF, il y a des gens qui ont des velléités d'appartenance à de faire allégeance justement au mouvement islamiste. C'est pour ça que j'ai dit, nous attendons formellement les résultats des enquêtes qui sont menées. amené à ces sujets-là.
La lettre du continent révèle que la semaine dernière, à Paris, le président Tshisekedi a rencontré très discrètement le chef de la DGSE française, Bernard Aymier. Est-ce que la France peut vous apporter son aide en matière de renseignement ?
Bon, je ne suis pas au courant de cette rencontre. Il est normal que la RDC relance sa coopération avec la France. Et dans les domaines, moi-même j'ai dû aborder hier avec les services des secrétaires d'État à l'intérieur ici, des problèmes qui sont spécifiques au maintien de l'ordre public, à la collaboration que nous pouvons avoir pour la formation, l'encadrement, la remise à niveau de notre police. Et dans plusieurs aspects, la gestion des masses par exemple lors des manifestations, les contrôles aux frontières, etc., etc. Je crois que nous allons formaliser bientôt dans des rencontres plus approfondies avec nos experts un cadre de coopération à ce niveau-là.
Du temps de la présidence Kabila, l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, était surtout connue pour ses cachots clandestins. Avec son nouveau patron Justin Inzoun Kakiak, beaucoup espéraient qu'elle ferait moins de répression et plus de renseignements. Mais les défenseurs des droits de l'homme l'accusent de procéder encore à des arrestations, notamment autour des sites miniers.
Mais vous savez que le président de la République, aussitôt entré en fonction, une de ses premières décisions était de fermer tous les cachots clandestins réputé appartenir à l'Agence nationale des renseignements. Et cette décision a été exécutée sans faille. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'ANR arrêterait des gens sur les sites miniers.
La répression, c'est vraiment terminé ? Les cachots clandestins, vous pouvez nous dire aujourd'hui, il n'y en a plus ?
En tout cas, je dois vous dire qu'au niveau des cachots clandestins, il n'y en a pas. Si quelqu'un a connaissance d'un cachot clandestin quelque part, eh bien, qu'il nous apporte l'information. Je crois qu'il y a un grand travail qui a été fait et qui s'est fait. Moi-même, j'ai réuni tous les services de sécurité de manière régulière, au moins une fois par semaine, pour faire le point. L'ANR est de ces services-là que je suis de manière tout à fait régulière.
À Kinshasa et à Bukavu ces derniers jours, plusieurs militants de l'ONG Lucha ont reçu des menaces de mort. Quelles mesures comptez-vous prendre pour mettre fin à ces menaces ?
Mais de la part de qui ? Je ne pense pas qu'ils puissent se plaindre d'avoir été retenus dans des cachots pendant plusieurs jours pour une manifestation devant l'un ou l'autre bureau. Mais qu'ils disent maintenant qu'ils ont été menacés de mort. Je ne vois pas comment un service public peut menacer un citoyen de mort. S'il y a des actes répréhensibles, on procède à des arrestations. Je ne pense pas qu'un service public puisse proférer des menaces de mort. Mais s'ils peuvent nous apporter des informations avec l'identification des gens qui, dans l'exercice de leurs fonctions officielles, auraient proféré des menaces de mort, nous prendrons des mesures qu'il faut.
L'un des fléaux, c'est le racket de la population par la police. Vous avez promis de meilleurs salaires pour les policiers. Où est-ce que vous en êtes ?
Je ne sais pas si nous avons promis de meilleurs salaires. Nous avons rappelé la police à ses responsabilités. C'est le service qui est le plus proche des citoyens. Nous sommes pour l'instant en train de discuter le budget de l'année prochaine au niveau de notre Assemblée nationale. S'il y a des changements notoires de la paye des policiers ou des autres agents en charge de l'ordre public ou de la sécurité, il est certain que nous allons y procéder de manière assez progressive, compte tenu des moyens nouveaux que nous allons essayer d'engager au niveau du gouvernement. Donc, je sais que beaucoup d'efforts ont été déployés de ce côté-là pour essayer d'améliorer un tant soit peu leur vie de chaque jour. Vous savez que des écoles ont été aménagées, réhabilitées pour des enfants. Vous savez qu'il y a la gratuité de tous les enfants de la République au niveau de l'enseignement élémentaire qui a été lancé. Et dans les camps militaires comme dans les camps des policiers où depuis des années il n'y avait même pas d'eau courante, l'eau a été rétablie. Dans leur centre de santé, il y a maintenant des médicaments. Il y a un grand travail qui s'est fait dans cette direction-là. Et si vous voulez, vous pouvez faire balader votre micro parmi et les militaires et les policiers. Je crois qu'ils vont reconnaître les efforts que notre gouvernement est en train de déployer pour que leur vie soit meilleure que ce qu'elle a été jusque-là.
Sur le plan politique, Gilbert Kankondé, les tensions au sein du pouvoir entre votre coalition CASH et la coalition pro-Kabila FCC sont de plus en plus visibles. On ne va pas se faire des bisous, dit le chef de l'État lui-même. Est-ce qu'on est près de la rupture ?
Mais comme toute action nouvelle, nous sommes un peu à l'heure de l'apprentissage. Que ce soit nous du côté UDPS, depuis que notre parti a été créé, ça fait fait plus de 37 ans que nous n'avons jamais été au pouvoir. C'est la première fois que nous arrivons au pouvoir. Je ne sais pas en quoi vous dites que la tension est perceptible. Je crois que nous exerçons le pouvoir avec ceux qui aussi, pendant des dizaines d'années, l'ont exercé seul, sans partage. Donc, il peut y avoir qu'à l'un ou l'autre moment, les attitudes de ceux qui avaient toujours exercé le pouvoir sans contestation tout seul puissent se heurter un peu à ceux qui avaient toujours combattu ceux qui étaient au pouvoir et qui ne l'avaient jamais exercé. Mais je crois que les choses sont harmonieuses. À mon niveau, en tout cas, au niveau au sein du gouvernement, nous débattons de toutes les questions. Au Conseil, il n'y a jamais des affrontements qui montrent des heurts, à moins que vous ayez quelques exemples à nous donner.
Alors les exemples, ils sont tout simples. À Kinshasa, des jeunes UDPS ont détruit des effigies de l'ancien président Kabila. En représailles, à Kolwezi, des jeunes PPRD ont détruit des effigies du président Tshisekedi. Est-ce à dire que vous ne contrôlez pas votre base UDPS ?
Ah, moi-même j'ai fait le déplacement de Kolwezi. Lorsque ces faits se sont passés, nous avons estimé qu'il s'agissait là d'un signal inquiétant dans une province où, au cours de notre histoire, il y a eu des petits faits, mais qui ont embrasé, qui ont fait que les communautés entières se soient affrontées. Et je ne veux pas revenir sur ce triste événement de notre histoire, mais nous avons estimé que ce signal-là était important et que nous devons appeler notre population, nous devons éduquer nos bases et nous devons nous comporter en républicains.
Aussi bien côté UDPS
côté
que PPRD.
Que côté PPRD.
Alors, vous faites allusion aux affrontements qui ont eu lieu à l'époque Mobutu, au Katanga, entre les communautés katangaises et kassayennes. Il y a à nouveau des tensions entre ces deux communautés. Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vous suivez ça de très près ?
Oui, c'est là où j'ai dit qu'il y a un peu d'amalgame que nous devons éviter. D'abord, un parti politique ne se crée pas, selon notre constitution, sur base d'appartenance à un groupe ethnique ou d'une communauté spécifique. Un parti se crée autour d'une idéologie, d'une vision politique. Donc, il ne faut pas que les gens prennent ce chemin qui est très court pour dire, eh bien, à l'UDPS, le président s'appelle Tshisekedi, il est kassayen, donc l'UDPS est un parti de kassayens. Ou par ailleurs, dire que le PPRD, parce que l'autorité morale est katangais, donc le PPRD est un parti de katangais. Donc, ce chemin-là, nous devons absolument l'éviter. On ne peut pas dire, parce que les autorités qui sont à la tête du gouvernement au Katanga sont des Katangais, donc ils se comportent de sorte à protéger les Katangais au détriment des autres communautés qui habitent, qui ont choisi d'habiter les Katangas. Tout Congolais, selon notre constitution, a le droit de s'installer partout où il veut à travers la République. Et en tant que républicain, ceux qui ont la gestion de nos provinces, ceux qui ont la responsabilité de garantir l'ordre public, la sécurité et autres, doivent se comporter comme des représentants de l'État et éviter tout ce que peut les relié à une communauté ou à un parti.
Alors vous parlez de la neutralité nécessaire des représentants de l'État. Tout récemment, lors de votre dernière visite à Lubumbashi, le gouverneur pro-Kabila de la province n'est pas venu vous accueillir à l'aéroport. Il ne vous a même pas envoyé le protocole. Comment comptez-vous réagir à cette provocation ?
Là, vous avez d'abord une information qui n'est pas très exacte. Il est certes vrai que le gouverneur n'était pas venu m'accueillir à l'aéroport, tout simplement parce qu'il s'est retrouvé à Kinshasa. Je crois que moi-même, j'avais signé son autorisation de sortie. Donc j'avais compris que le gouverneur ne soit pas présent à mon accueil. Mais à la descente, j'avais la haie d'honneur comme on le fait d'habitude. J'ai reçu les honneurs de la police et au moment où j'ai terminé de saluer les notables, je m'aperçois que le protocole n'y était plus et que même le vice-gouverneur et les maires de la ville avaient disparu. Ça peut être une sorte de défaillance du côté des services de sécurité. D'autres disent que c'est peut-être quelque chose qui avait été préparé, mais à mon retour à Kinshasa, j'ai demandé des rapports de tous mes services, que ce soit les services de la police, l'ANR, la DGM, tous ceux qui sont censés m'informer correctement. Donc, je ne peux pas dire que c'était un sabotage parce que ce sont des responsables qui appartiennent à un regroupement politique, à une force politique qui est membre de la même coalition et avec laquelle nous dirigeons le pays.
Vous n'avez pas la preuve d'un sabotage?
Non, je n'ai pas encore la preuve d'un sabotage. Donc ça peut être une défaillance de la part des services de protocole.
À l'origine de toutes ces tensions entre Cash et le FCC, il y a notamment la nomination par un certain nombre de gouverneurs pro-Kabila, de plusieurs commissaires provinciaux, de plusieurs bourgmestres à titre intérimaire. Et puis il y a votre volonté de vous opposer à ces nominations. Où est-ce qu'il en est, ce bras de fer?
Ce n'est pas ma volonté. J'ai envoyé une instruction qui rappelle les dispositions constitutionnelles. Pour ne prendre que le cas du Katanga, par exemple, ces commissaires ne vont plus au travail. Le gouverneur du Haut-Katanga donc a respecté scrupuleusement cette instruction que j'ai donnée.
Alors ces maires intérimaires, de toute façon, ils seront remplacés, on imagine, le jour où il y aura des maires élus. Mais quand est-ce qu'elles auront lieu, les élections locales?
Il y a des gouverneurs qui ont nommé des bourgmestres des communes, qui ont nommé des maires des villes, qui ont nommé des chefs de secteur. Et là aussi, au moment où j'ai demandé à ces gouverneurs de rapporter leurs décisions, j'avais en même temps demandé qu'ils me fassent rapport, de sorte à ce que si jamais les élections tardaient à être organisées, que l'on place des intérimaires qui viennent des mêmes structures. Donc un gouverneur, quel qu'il soit, ne peut pas procéder à ce genre d'actes. Et c'est ce que nous avons rappelé.
Oui, mais il y a eu de la résistance.
Et vous savez que sur les 26 provinces, nos partenaires de la coalition gèrent pratiquement l'ensemble de toutes les provinces. Mais malgré ces faits-là, il n'y a que 3 gouverneurs qui avaient procédé à ce genre de nomination. Donc, parler d'une résistance des gouverneurs qui seraient du FCC contre les ordres qu'on leur aurait donnés est, à mon avis, exagéré.
Il y en a 3 sur 26.
3 sur 26. Et nous allons mettre de l'ordre là-dedans et il y aura, si jamais les élections ne sont pas organisées, une mise en place générale qui corresponde aux prescrits de nos textes légaux.
Les graves inondations dans le sud Oubangui, est-ce que l'État est totalement dépassé par les événements?
Les cas d'inondation, il y en a effectivement, pas seulement dans le sud Oubangui, il y en a eu dans les Maïndombé, il y en a eu même dans les Kassai. C'est vrai, ce sont des événements malheureux qui font que, bon, bien sûr, des familles entières sont sans toit aujourd'hui. J'ai eu moi-même le gouverneur du sud Oubangui qui était présent à Kinshasa et les évaluations étaient faites. Je crois qu'il y aura sûrement une action gouvernementale dans ce sens.
Monsieur le vice-premier ministre, monsieur le ministre de l'Intérieur, merci.